Les contes sont inspirés par le sol même, une sorte de sens qui en émane, une vérité qui naît du regard patient de l'homme sur les choses, sur les lieux et les êtres de son univers familier. La légende est ce qui permet à l'homme d'habiter le monde. Bienvenue à tous ceux qui écoutent Erdiwa 107.5. La pensée des peuples vous dévoile en ce jour la deuxième partie des légendes d'Auvergne, avec trois contes d'Henri Poura. Avant cela, un petit extrait du livre Vers la liberté, sur la pédagogie Steiner, qui évoque les contes. Les contes révèlent la nature intérieure la plus profonde des différents caractères. Les enfants apprennent à connaître l'être humain mieux que de n'importe quelle autre manière. Cela les aide à développer leur sens du vrai et du faux. En plus de leur sens poétique, ces premiers conteurs avaient une grande connaissance de la nature humaine et une profonde sagesse. Fait pour des hommes qui n'ont pas perdu leur imagination d'enfant. Les contes qui vont suivre présentent des fées et des êtres surnaturels, nous balançant entre réalité et croyance.
Au suc des dames. L'an 1632, un soir d'été, un nommé Pierre Mousset, se trouvant dans une auberge de Saint-Simon, entendit dire qu'il y avait une grande apparence que les fades, les demoiselles, viendraient cette nuit-là danser au suc des dames. Mais qu'elles n'aimaient pas qu'on allât les y voir et les y déranger. Qu'il en prendrait même assez mal à ceux qui seraient assez osés pour le faire. Alors, lui, poussé par le vin, il gagea qu'il irait avec sa musette et qu'il les ferait danser. S'il y en avait, que c'était si bien résolu qu'il allait au suc des dames tout de ce pas. C'était un garçon de courage et il ne croyait pas aux fades. Il savait cependant que les bergers s'écartent de l'endroit, de peur des malices que les fades pourraient leur faire. Souvent, ils ont vu au matin dans la rosée ces ronds qu'elles font dans leur danse et où l'herbe devient plus sombre, toute mêlée de mousserons. Mais Pierre Mousset le dit ainsi, et la gageure fut tenue. C'était une nuit de grande lune. L'air était fort serein. Pierre Mousset passa les bois. Lorsqu'il en sortit, il se trouvait en lieu si clair et si tranquille qu'on apercevait chaque vergette des buissons. On n'imaginait pas la moindre chose à craindre. Pierre Mousset passa aussi l'endroit, creux des pacages, et, allant toujours, il arriva aux abords de la butte. Il a raconté ensuite qu'il avait été alors cloué de surprise, apercevant, autour du suc des dames, qui jouaient, folâtraient, dansaient en rond, une douzaine peut-être de demoiselles. Il était resté là, sur place, dans l'herbe, un bon bout de temps, les regardant de tous ses yeux, et à travers leurs robes blanches, qui semblaient de toiles d'araignée et de brouillard, il les voyait comme des filles qui sortent de l'eau. S'il avait été bien à lui, il se serait avisé, alors qu'elles n'étaient pourtant point des personnes. De même que les feux follets ne sont pas des feux ordinaires. Elles étaient pâles de teint et fluettes, faites comme du lait de la lune. Et quand elles tapaient dans leurs mains, cela sonnait le creux, comme des os sans viande. Quelque chose qui n'était pas de cette terre. Mais la tête de Pierre Mousset s'était échauffée, tout enchantée de cette danse. Il avança. Il eut bien cette audace d'avancer. Et tout d'un coup, se saisissant de sa musette, il se mit à en sonner sous les rays de la lune. Jusqu'à cet instant, la fantasmagorie s'était jouée dans un complet silence, comme la fête volante d'un autre monde de minuit, qui n'aurait pas été fait pour les humains. Dès qu'éclata cette musique mordante de la musette, ce fut comme si la nuit même partait en morceaux. De tous les côtés, les fées tourbillonnèrent et se sauvèrent. Il n'en demeura là que deux, elles durent le joindre. Pierre Mousset les vit soudain, toutes proches. L'une lui enleva son chapeau, puis elle ne fut plus là. L'autre, c'était la plus belle, au revers de la veste lui enleva ses trois roses. Il voulut les reprendre et la prendre elle-même, elle s'esquiva. Il se jeta à sa poursuite. Il lui semblait toujours qu'il allait la tenir, à peine si elle paraissait courir. Et cependant, lui, tout courant, tout lancé, il n'arrivait pas à la joindre. Chaque fois qu'il croyait se saisir d'elle, l'enfermer entre ses bras, comme une vapeur de l'aube entre deux branches, elle se coulait hors de ses mains. Elle lui riait, le regardait, échappant toujours, et elle le mena ainsi jusqu'au-dessus de Béliac. Là, le pays s'escarpe et le revers se coupe sur un à-pic. Pierre Mousset a dit qu'il s'arrêta. Il voulait revenir en arrière. Mais savait-il encore ce qu'il voulait ? La folie le tenait de cette demoiselle. Il n'était plus que cette folie, cette passion de la joindre. Il suffit à la fade de se pencher à peine, comme un bouleau dans un souffle d'air, de le rappeler d'une parole. Il la suivit à corps perdu. Ce fut bien sa perte, on le trouva là au matin, tout rompu, baignant dans son sang. Il put tout juste faire savoir ce qui lui était arrivé, et dire que pour finir, il avait senti une main le précipiter de la roche. Près de lui gisait sa musette, mais pas plus que son chapeau ne furent retrouvés les trois roses. Il put encore demander son pardon à Dieu, puis recevoir l'absolution, et il mourut. La même chose de Jacquillou, le cabretaire, qui ne croyait pas aux fades et paria qu'il irait les faire danser aux quatre chemins du milieu de la forêt. Il les y trouva, vint peut-être, et il eut peur. Puis la tête en fièvre, il se crut à une noce et emboucha le tuyau de sa cabrette. Il lui en prit point par point, comme à Pierre Mousset, et il mourut après qu'on l'eût tiré du gourd de marmite. De même du puits Chamarou, qui est vert à ses racines, et plus haut, d'une terre rougeâtre, mêlé de cailloux. C'est dans le venteux et froid pays de Montgrelet, à deux petites lieues de Marcenat. Il est habité par les fades. Le garçon qui passe là de nuit, elle l'appelle, et si elles peuvent le prendre dans leur danse, elles le font danser toute la nuit, follement, jusqu'à ce qu'il en meure. Les paysans le savent, il y a pour l'homme un monde de la mort. Mais cette folie qu'il y entraîne, elle est moins folie de désir, folie des sens d'abord, que folie d'un jeu, effervescence de l'imagination. C'est l'esprit qui s'enchante, comme au rayon de la lune, et qui affole la chair. Le sang dans ses fougues reste la santé et la vie. Mais l'esprit dans ses songes peut ouvrir un abîme d'égarement et de mort. Voilà ce que le peuple a su voir. Dans les parages d'Ide, qui est le canton de Seigne, il est parlé de divers sucs ou buts. Le plus connu est le suc des demoiselles. Une fois, il y a à peu près 200 ans, un nommé Raguet, faisant route par là de nuit, aperçut trois de ces demoiselles, trois fades. Elles étaient assises, qui babillaient et riaient. Il passait vite, invoquant son saint patron. Quand elles aussi, elles l'aperçurent, et elles se saisirent de lui, et formant une ronde, le forcèrent à danser avec elles. Par bonheur, le jour vint, mais il dut danser ainsi jusqu'au jour, et il faillit en mourir d'épuisement. Il ne parla jamais de son aventure qu'avec tremblement.
La peur des lacs d'Auvergne. À une lieue de Besse en Chandesse, dans l'entonnoir d'un volcan mort, dont les gros faillards tourmentés couvrent les rampes, le Pavin est un lac tout rond, tout sombre. Singulière sorcellerie, celle de ce miroir d'eau, ainsi encaissé au milieu des montagnes. Certains jours, cela fait incantation, sous la nue pesante. Une des choses les plus muettes qui puissent être. Dans les temps, il se disait que ces eaux recouvraient une ville maudite, qui avait dû s'abîmer jusqu'en enfer, car nulle sonde ne trouvait jamais le fond du lac. Nulle barque ne pouvait y voguer sans sombrer. Et nul poisson, carpe ou vandoise, perche ou truite ne pouvait même y vivre. Ici planait une malédiction. Il se disait encore que si on y jetait une pierre, on en faisait lever dans les vents le tonnerre et de grands abats d'eau, toute une tempête. Les montagnards croyaient cela de tous les lacs, étangs ou fontaines. S'il t'avait vu embrouiller les eaux, il t'aurait tenu pour un sorcier, qui appelait l'orage et le dégât. Ne remue pas l'eau qui dort, l'eau qui monte, paisiblement, secrètement des entrailles de la terre. Respecte ces purs afflux, toujours plus riches de ressources qu'on ne l'avait pensé. Toutes les fontaines sont sacrées. On y jetait donc, non des pierres, mais des pièces d'argent, des joyaux, des bagues. Comme cela, au moins, on était sûr qu'elles tenaient cachées en elles des trésors, des pouvoirs. On se faisait grande idée, surtout, de ces lacs, monstrueuses fontaines, au sommet des montagnes. Comment s'attaquer au pavin sur lequel on osait seulement s'aventurer? Ce lac sans poissons, il y en a maintenant, et des éponges, toute une faune et une flore peu communes. Ce lac sans barque, car un tourbillon perpétuel les avalait. Ce lac sans fond, qui devait donc communiquer avec les enfers, demeura très longtemps environné de peur. L'hiver simplement, quand il est pris par les glaces, ce muet peut se mettre à mugir. De soi-même, il fait courir de sourds grondements sous leur croûte, l'air enfermé peut-être qui tourne et cherche à s'échapper dans ce circuit d'une lieue de tour. Lorsque la glace vient à se rompre, le bruit redoublé par l'écho, courant de même autour de ces rampes rondes, se répercute comme un tonnerre qui n'en finirait plus. Autrement, c'est plus que du silence, c'est une taciturnité. Quel travail a-t-il fait autrefois, ou fera-t-il demain? Ce lac tellement endormi sous les énormes bras rampants, tordus, velus de mousse de faillard. Ne croit-on pas voir, par temps clair, sous ces eaux de montagne, si obscures et si transparentes, les clochers, les toits de la ville avalés? Ne croit-on pas savoir qu'un jour, se soulevant, emportant le talus qui l'enceint, il fera irruption dans le ravin de la Couze, et sa masse dévalante, emportant les villages, les prés, les vergers de pommiers, balayera tout, submergera Issoire jusqu'à l'Allier, jusqu'à la plaine. Les gens d'Allègre, eux, du moins, n'ont plus rien à craindre de celui qui dormait sur le mont du Bar, dans le cratère du volcan. Ils ne cessaient de lui jeter en offrande des colliers et des monnaies d'or. On en retrouve quelquefois sous le gazon, mais ils n'arrivaient pas à se le rendre propice. Ce lac restait un nid de trombes. À tout moment, pouvaient en sortir des tornades qui ravageaient le pays. Lui aussi, quand on l'insultait d'un caillou, c'était terrible. À la fin, ceux d'Allègre s'en fâchèrent. Cela ne pouvait plus durer. Une forte tête peut-être les monta. Aux magies du lac, ils opposèrent une espèce de contre-magie. Ils prirent du vif argent, ils le mêlèrent aux eaux, pour leur communiquer une vertu de vivacité et de fuite. Ils durent prendre des pioches aussi et pratiquer une coupure dans la paroi du cratère. Ils firent tout, parce qu'ils en avaient assez de ces histoires, et l'on verrait bien qui serait le plus fort, du lac aux tempêtes ou d'eux-mêmes. Ce fut eux, à force de pioches et de vif argent, ils vinrent à bout de dessécher le lac. Sur le mont du Bar, il n'y avait plus que le vert paisible de l'herbe. Sur un de ces monts secs et ronds, comme des pins, dans les vieux âges s'élevait une ville, et maintenant s'y étale le gourd de Tazna. Les gens de la ville étaient durs, si durs que les pauvres de la montagne s'étaient plaints au ciel de leur dureté. Ces gens leur refusaient même le pain, ils ne valaient rien, et leur curé, qui aurait dû les reprendre et leur changer le cœur, ne valait pas beaucoup plus qu'eux. Un jour, notre Seigneur s'habille en pauvre. L'aumône il va leur demander. De porte en porte, il se voit rebuté de tous. À une seule, on lui donna. Là, une femme venait de cuire sa fournée. Elle prit un crouton resté de l'autre fournée et, de plus ou moins bonne grâce, elle lui tendit. Le pauvre sous ses yeux se transfigura. Il avertit la femme qu'elle l'eut à se sauver et sans seulement retourner sa tête. Dans l'instant, votre ville va s'engloutir. De fait, la montagne s'enfonça, s'effondra en un gouffre, d'où les eaux montèrent, noyant la ville et ses habitants. Il n'y eut plus qu'un lac tout rond à cette place. Il couvre exactement la même surface ronde que la ville de Rion. Mais cela n'alla pas sans fracas ni fumée. Malgré l'avertissement, la femme ne put s'empêcher de se retourner. Tout aussitôt, elle se vit changer en pierre. Cette pierre, à la ressemblance d'une femme, se dressait sur le bord du gour. Le bétail venait s'y frotter aux chaleurs d'août, quand il était pris de démangeaisons. On s'avisa qu'ensuite, les cornes lui tombaient, de même qu'un croûton sec, comme une corne était tombée des mains de cette femme. On poussa la femme de pierre dans les eaux. Elle en ressortit et reprit sa place, n'ayant pas, elle, été condamnée au gouffre. Cependant, les bêtes qui s'y frottaient continuaient de perdre leurs cornes. Cela non plus ne pouvait plus durer. On alla la noyer au beau milieu du gour. Cette fois, elle jeta une plainte. Mais elle ne fut plus revue ni entendue. Les gens de Charbonnières assurent qu'en la nuit de Noël, on entend monter du fond des eaux les sonneries de la messe. Puis le silence. Le curé n'est pas assez pur, sa pénitence n'est pas accomplie encore, et il n'a pas pu consacrer. Certains jurent que c'est vrai, ils en mettraient leur tête à couper. Sur l'herbe et sur le givre, ils sont allés jusqu'au bord du gour, dans la nuit de Chalande. Et tout secoués d'un frisson, ils ont entendu, du milieu des eaux, sonner la clochette. D'autres veulent que ce soit pendant la nuit de la Toussaint, à minuit, tandis que le poil de ses bras se hérisse, celui qui est venu là, entend, dessous le lac, depuis l'autre monde, monter le chant des coqs et le branle des cloches. Oui, pour les uns, c'était à la Toussaint, pour les autres, à la Noël, que revenait au bout de l'an le jour où le pauvre avait été rebuté et la ville engloutie. De toute façon, le péché leur paraissait plus grief en cette arrière-saison, alors que les récoltes sont faites, les provisions de blé et de maïs, de raves et de pommes, de lard et de salé, amassées dans les greniers, les charniers et les chambres. Alors aussi que la bise est venue, que les jours sont plus noirs sous le nuage, dans la froidure, assez grief alors, pour tirer au gouffre toute une ville, ses gens, ses coqs et son curé. Ils n'imaginaient pas des jours si noirs, que les campagnes même fussent ici et là, tentées par le refus. Ils savaient que si morte fut la saison, toujours l'idée vivrait sur la terre de France, celle du grand secours entre frères humains.
Le bateau était sous l'eau. Il a rencontré un sous-marin, mais il a dit « Est-ce que je peux aller dans ton bateau ?» parce que mon canoë et moi, il y avait un arbre qui était trop lourd et du coup, je suis coulée, mais je ne savais pas s'il avait trop de force. Donc, je lui ai dit « Tiens, monte sur mon bateau, sinon je te présenterai. »
Face à la tour Goyon, on fut débonder le lac du pays d'Ambert. Se dresse la colline bossue de Boutonnargues. Sur les tronçons de murs et de tours de son château, ceux qui s'attardaient à la lune levante voyaient paraître les lutins, de petits hommes vêtus à l'antique, tout de rouge, comme des flammes sombres, toutes dansantes et sautantes. Ces follets couraient plus vite que le vent sur les traînées de ruines. Ils grimaçaient, ils tiraient la langue. Tant qu'ils pouvaient, ils s'en donnaient. Ils menaçaient et houspillaient les gens de la campagne que leur mauvaise chance avait amenés là à heure trop tardive. Si même ils pouvaient s'en saisir, ils les enterraient jusqu'au cou. C'était pour leur apprendre à ne pas hanter ce qui n'appartient plus qu'au peuple de la nuit, dans la ruine et dans la solitude. Plaisir de se retrouver prochainement et prenez garde aux êtres qui peuplent la nuit.